Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger ? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote !
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans les programmes de fiction sur France Culture. Ce soir, en direct de la Maison de la Radio et de la Musique, une heure en compagnie du poète irlandais William Butler Yeats, prix Nobel de littérature en 1923, il y a tout juste 100 ans. Les poèmes que vous entendrez ce soir dans une réalisation de Cédric Ossir ont été choisis par l'écrivaine et productrice de radio Maëlys Bessery. Elle est l'auteur notamment d'un roman paru en 2022, Les Amours dispersés, consacré à William Butler Yeats, et elle vient de recevoir le prix du roman des écrivains du Sud 2023. Maëlys Bessery, bonsoir.
Bonsoir.
Et merci d'être avec nous ce soir, en direct, pour à la fois nous présenter le poète Yeats et nous dire aussi quel choix vous avez fait dans cette œuvre pour les auditeurs et les auditrices de France Culture.
Alors, l'idée, c'était de présenter cette grande figure qu'est Yeats, qui est une grande figure notamment du monde anglophone. Alors pourquoi ? Parce que c'est à la fois un prix Nobel de littérature, mais aussi une grande figure politique, une figure de l'indépendance de l'Irlande. Il est devenu sénateur, et donc c'est un peu le Victor Hugo irlandais. Donc pour cette raison-là, je voulais à la fois proposer des poèmes qui, à ses débuts, sont un peu le dernier wagon du romantisme. Il est né en 1865 et mort en 1939. Donc il y a cette poésie sur la nature, très romantique, etc., qui est celle du début, et sur ses amours éconduits et tristes. Et puis, petit à petit, la politique prend le dessus et sa poésie devient justement très empreinte de cette lutte de l'indépendance, cette lutte en compagnie de Maud Gonne, sa muse, son amoureuse de toujours, qui va refuser trois fois de se marier avec lui, mais avec qui va entretenir toute sa vie une correspondance forte et qui représente l'Irlande à elle toute seule. Elle est une sorte de grande femme rousse qui représente pour lui les figures de la mythologie irlandaise. Et donc Yeats, qui est paradoxalement un personnage assez contrasté puisque il appartient à ce monde protestant irlandais, non pas au monde catholique, va déterrer toute la mythologie celtique irlandaise et va la rendre à l'Irlande d'une certaine manière dans sa poésie. Donc il est le poète de l'indépendance, la grande figure, le premier prix Nobel et le sénateur qui va faire des discours extrêmement audacieux et ambitieux puisqu'il va se prononcer notamment en faveur du divorce à une époque où l'Église catholique tient complètement le pays.
Les textes que vous avez choisis sont souvent assez, il y a une forme de assez concret, assez lié à la terre d'Irlande. Et j'ai noté cette petite phrase des jurys du Nobel lui rendant le prix et disant que sa poésie était toujours inspirée déjà et dont la forme hautement artistique exprime l'esprit d'une nation entière. Il y a un lien comme ça entre le peuple irlandais et puis ce poète et quelque chose finalement. Est-ce que ce poète est resté dans la mémoire collective ? Est-ce qu'on le connaît par cœur en Irlande ?
Complètement. C'est vraiment la grosse référence en poésie. En Irlande, mais aussi ailleurs, on connaît peu de présidents américains qui commencent ses discours sans citer Yeats. C'est un peu le Shakespeare de la poésie dans le monde anglophone, donc pas seulement en Irlande. Et c'est vrai qu'il a su retracer à la fois l'oralité de la culture irlandaise, qu'on retrouve à la fois dans la poésie déclamée et dans la musique, retrouver ses racines de la poésie en irlandais, en gaélique, qui est une langue qui passe par beaucoup de circonvolutions de l'esprit, beaucoup d'images. Et on dit que les Irlandais, à travers leur anglais, ont utilisé finalement ces tournures d'esprit de la langue gaélique en anglais et que ça a donné ce lyrisme que l'on connaît à Yeats, qui est assez intéressant parce qu'à la fois il s'inspire de toute cette poésie classique autour de la nature, etc., mais aussi finalement une poésie très ancrée dans l'actualité politique de son époque, les guerres intestines, la guerre civile qui va suivre l'indépendance, dont on voit les grands noms des dirigeants politiques de l'époque cités directement dans la poésie de Yeats. Donc l'idée de ce choix de texte, c'était de suivre un peu ce parcours, parce que le parcours parcours de Yeats représente l'histoire du XXe siècle de l'Irlande, donc sa transition entre le moment où elle est sous le joug britannique et où elle accède à l'indépendance.
Est-ce que vous auriez composé ces chouettes poèmes comme une sorte de portrait de Yeats?
Oui, c'est un portrait d'ailleurs un peu narratif, puisque j'ai choisi de faire un fil conducteur grâce au travail de prose de Yeats, qui est il a écrit son autobiographie en 3 volumes, dont le plus célèbre est Le frémissement du voile. Donc je me suis servi de cette ligne de narration, comme s'il était lui-même le narrateur de cette soirée poésie, entremêlée de poèmes qui permettent de faire un voyage entre les grandes figures mythologiques celtiques, les héros épiques de la tradition irlandaise, et en même temps toute l'histoire politique sanglante et assez terrible du XXe siècle. Alors il faut savoir qu'il y a aussi un lien entre Yeats et la France, puisque Yeats est mort en 1939, en France à Roquebrune-Cap-Martin, et il a été enterré sur place, et cette histoire a donné lieu à des péripéties, puisque pendant la guerre, il a été mis dans la fosse commune, et que lorsque les Irlandais ont demandé, après la guerre, le retour du poète dans son pays, on ne sait pas trop ce qu'on a renvoyé en Irlande. Donc il reste toujours une sorte de lien entre la France et l'Irlande sur la question du poète Yeats.
Ça, c'est le sujet de ce livre que vous avez consacré à Yeats, justement, et le roman en fait, que vous avez écrit à partir de ce mystère en fait, des restes du poète qui vous avez mené une sorte d'enquête pour savoir qui était revenu en Irlande, finalement. Et c'est qu'est-ce qui vous avait guidé dans l'écriture de ce livre, justement, avec lequel vous plongez tellement dans cette œuvre?
Mais c'était la découverte de documents publiés par le Irish Times et qui racontaient justement qu'il y avait eu une sorte d'imbroglio administratif et diplomatique, surtout, au moment où les Irlandais, en 1948, ont demandé le retour des cendres de Yeats et ont voulu faire des funérailles nationales. À ce moment-là, on s'est rendu compte qu'il avait été mêlé à la fosse commune, aux soldats, etc. Et on ne savait pas trop comment rapatrier le poète. Alors cette histoire un peu tragicomique, elle est d'autant plus importante pour les Irlandais qui avaient ce poème qui figure dans la soirée de poésie qu'on va entendre, qui est le poème testamentaire de Yeats, qui s'appelle « Au pied de Belbunben », qui est la grande montagne au mont plat de sa région natale, la région natale de sa mère, le pays de Sligo. Et justement, il avait raconté qu'il voulait être enterré là, au pied de sa montagne, avec ses vers très célèbres « Jette un regard froid sur la vie, sur la mort, cavalier, passe ton chemin ». Alors ce poème, qui est le poème qui aurait dû fermer son histoire, en réalité les choses ne se sont pas passées comme prévu. Et on ne sait pas trop où se trouve le corps de Yeats, quelque part entre la France et l'Irlande.
Alors le poète est dans sa langue, on va l'entendre ce soir avec ce choix de poème. Vous avez tenu, je crois, à ce qu'on entende à la fois la voix de Yeats et aussi la langue anglaise.
Oui, alors c'est vrai qu'on a quelques enregistrements de la voix fantomatique de Yeats. Alors c'est vrai que c'est des enregistrements anciens, c'est déjà très précieux d'en avoir, qui sont donc un peu sales d'un point de vue du son, mais très beaux justement parce qu'ils apparaissent comme une sorte de présence de l'au-delà. Je voulais qu'on entende Yeats un peu dans le texte. Alors c'est des versions mises en musique, peut-être plus facile à absorber pour l'auditeur français qui n'est pas anglophone. Et puis le reste, c'est les traductions qui ont été faites en français, notamment par Yves Bonnefoy, qui s'est intéressé à une grande partie de l'œuvre de Yeats, qui est parue notamment aux éditions Gallimard et aussi chez Verdier.
Merci Maëlys Bessery. Merci. Je rappelle le titre de votre roman consacré à William Butler Yeats, donc c'est « Les amours dispersés », publié aux éditions Gallimard. Et puis on écoute tout de suite en direct de la Maison de la Radio, Yeats, l'Irlande libre, terre celtique. Donc ce choix de poème par vous, Maëlys Bessery, et une réalisation de Cédric Ossir.
J'ai trouvé dans un vieux calepin de notes ce dire de Mallarmé que son époque était troublée par le frémissement du voile du temple. Comme ces mots étaient encore vrais pendant les années de ma vie qui sont décrites dans ce livre, je lui ai donné pour titre Le frémissement du voile.
Eussé-je des cieux les vêtements brodés, tissus de lumière d'or et de lumière d'argent, les bleus, les troubles, les noirs vêtements de la nuit et du jour et du demi-jour. Je jetterai sous tes pieds tous ces vêtements, mais je suis pauvre et je n'ai que mes rêves. J'ai voulu que mes rêves soient jetés sous tes pieds. Fais-toi légère, car tu foules mes rêves.
I will arise and go now and go to Innisfree and a small cabin build there of clay and wattles made.
9 bean rows will I have there, a hive for the honey bee, and live alone in the bee loud glade. And I shall have some peace there, for peace comes dropping slow, dropping from the vales of the morning to where the cricket sings. There midnight's all a glimmer, and noon a purple glow, and evening full of linnet's wings. I will arise and go now, for always night and day I hear lake water lapping with low sounds by the shore, while I scan the roadway around the pavements grey. I hear it in the deep heart's core.
L'île sur le lac à Inishfwe.
Que je me lève et je parte. Que je parte pour Inishfwe. Que je me bâtisse là une hutte faite d'argile et de joncs. J'aurai 9 rangs de haricots. J'aurai une ruche. Et dans ma clairière, je vivrai seul, devenu le bruit des abeilles. Et là, j'aurai quelque paix. Car goutte à goutte, la paix retombe des brumes du matin sur l'herbe où le grillon chante. Et là, minuit n'est qu'une lueur et midi est un rayon rouge et d'ailes de passereaux déborde le ciel du soir. Que je me lève et je parte, car nuit et jour, j'entends clapoter l'eau paisible contre la rive. Vais-je sur la grande route ou le pavé incolore, je l'entends dans l'âme du cœur.
Chanson sur l'Irlande de Anrahan le Roux. Les épines brunes se cassent en deux au-dessus de la plaine de Körmenstrand. Sous un âpre vent noir qui souffle de la gauche, notre courage se brise comme un vieil arbre dans le vent noir et meurt. Mais nous avons caché dans notre cœur la flamme des yeux de Kathleen, fille de Julian. Le vent a bottelé les nuages au-dessus de la colline de Knocknahary et lancé l'orage sur les pierres, quoique Maeve, la reine celtique, puisse en dire. Des colères pareilles à des nuages broyants nous ont fait battre le cœur. Mais nous nous sommes tous courbés très bas et nous avons baisé les pieds tranquilles de Kathleen, fille de Julian. L'étang jaune a débordé en haut du rocher de Clothnabel, car les vents mouillés soufflent dans l'air tenace. Telles de lourdes eaux ont cru nos corps et notre sang, mais plus pur qu'un haut cierge devant la Sainte Croix est Kathleen, fille de Julian.
The old brown thorn trees break in two high over Cumann Strand, under a bitter black wind that blows from the left hand. Our courage breaks like an old tree in a black wind and dies. But we have hidden in our hearts the flame out of the eyes of Kathleen, the daughter of Houlihan. The wind has bundled up the clouds high over Knocknahary and thrown the thunder on the stones for all that Maeve can say. Angers are like noisy clouds that have set our hearts abeat. But we have all bent low and low and kissed the quiet feet of Kathleen, the daughter of Houlihan. The yellow pool has overflowed high up on Clothnabair, for the wet winds are blowing out of the clinging air. Like heavy flooded waters, our bodies and our blood. But purer than a tall candle before the holy rood is Kathleen, the daughter of Houlihan.
Nous avions en Irlande des histoires imaginaires que les classes inéduquées connaissaient et même chantaient. Ne pourrions-nous pas redonner cours à ces histoires parmi les classes éduquées? Redécouvrir, pour le plus grand bien de l'œuvre, ce que j'ai appelé les arts appliqués de la littérature, c'est-à-dire l'association de la littérature avec la musique, la parole et la danse. Et pour finir, peut-être approfondir de telle sorte la passion politique de la nation que tous, artistes et poètes, artisans et journaliers, adopteraient un dessein commun. Peut-être même ces images, une fois créées et associées à la rivière et à la montagne, se meuvraient-elles d'elles-mêmes avec une vie puissante, turbulente.
Je suis d'Irlande, sainte terre d'Irlande, et le temps presse. Venez, par la charité, danser avec moi en Irlande.
Un homme, un seul, en ce costume d'étranger, un homme solitaire entre tous ceux qui flânaient là, avait tourné sa noble tête. L'Irlande, c'est bien loin, dit-il, et le temps presse, et la nuit se gâte.
Je suis d'Irlande, sainte terre d'Irlande, et le temps presse. Venez par la charité danser avec moi en Irlande.
Les violons n'ont que pouces ou que cordes cassées. Tambours, timbales, trompettes sont crevées et les trombones, dit-il, trompettes et trombones, clignant un œil malin. Et le temps presse, presse.
Je suis d'Irlande, sainte terre d'Irlande, et le temps presse. Venez par la charité danser avec moi en Irlande.
Le violonneux de Downey.
Quand mon violon chante à Downey, les gens y dansent comme houle. Mon frère est curé de Sligo. Et mon cousin curé de Coole. J'ai rencontré frère et cousin, tous deux plongés dans leur bréviaire. Moi, je lisais quatre chansons que j'achetais chez l'épicier. Quand nous viendrons au dernier jour, devant le trône de Saint-Pierre, aux trois bons vieux il sourira, mais qui des trois n'attendra guère? Le Gailluron est le meilleur, à moins de quelques malchances, et c'est bien l'homme du violon, et c'est bien l'homme de la danse, et quand là-haut je paraîtrai, les braves gens viendront en foule. Voilà le violon de Downey, et danseront comme la houle.
Un jour, un taxi s'arrêta devant notre porte à Bedford Park avec Miss Maud Gone qui apportait à mon père une lettre d'introduction du vieux leader fainéant John O'Leary. Elle agaça mon père en faisant l'éloge de la guerre pour elle-même, non pas en tant que créatrice de certaines vertus, mais comme s'il y avait eu une vertu dans la surexcitation. Je la soutins contre mon père, ce qui agaça celui-ci davantage encore, bien qu'il eût pu comprendre qu'un garçon d'un âge tendre ne pouvait être en désaccord avec une femme aussi jeune et aussi belle. Ce jour-là, avec sa haute taille et ses formes immuables, elle semblait être la personnification du printemps. Et la louange virgilienne, elle marche comme une déesse, faite pour elle seule. Son teint était lumineux comme des fleurs de pommier traversées de lumière. Et je me la rappelle debout, en ce premier jour, près d'une grande gerbe de ces mêmes fleurs à la fenêtre. Pendant les années qui suivirent, je la voyais toujours lorsqu'elle faisait la navette entre Dublin et Paris. Il devait se passer des années avant que je susse pénétrer l'esprit qui se cachait sous tant d'énergie et tant de beauté.
Qui rêva que beauté s'évanouit comme rêve? Cette bouche vermeille à la fierté navrée, triste que ne surgisse aucune autre merveille, fit disparaître trois en une lueur funèbre, mourir les fils d'Ousna. Le monde en dur travail et nous-mêmes passons. Les âmes des humains ondoient et se succèdent comme les pâles eaux dans leur course hivernale. Sous l'écume des cieux, les astres passagers servis ce visage esselé. Archange, courbez-vous dans votre obscur séjour. Avant que vous naissiez, qu'un seul cœur ne bâtit, lasse et douce, elle était près du trône de Dieu. Il fit du monde même un chemin verdoyant pour ses pieds vagabonds.
Quand tu seras bien vieille et grise, dodelinant aux portes du sommeil près du feu, prends ce livre et lis, sans te hâter, et rêve à la douceur qu'eurent tes yeux jadis dans leurs ombres lourdes. Combien aimaient alors ta grâce joyeuse, qu'ils aimaient ta beauté de feint ou vrai amour. Mais un seul homme aima en toi l'âme viatrice et aima les chagrins du visage qui change. Penche-toi donc sur la grille embrasée et dis-toi un peu triste à voix basse, amour, tu as donc fui, tu as erré sans fin sur la montagne, tu t'es caché dans l'innombrable étoile.
Down by the Sally Gardens, my love and I did meet. She passed the Sally Gardens with little snow-white feet. She bid me take love easy, as the leaves grow on the tree. But I, being young and foolish, with her would not agree. In a field by the river, my love and I did stand. And on my leaning shoulder she laid her snow-white hand. She bid me take life easy, as the grass grows on the weirs. But I was young and foolish, and now am full of tears.
À environ un quart d'heure de marche de Bedford Park, sur la grande route de Richmond, vivait W.E. Henley. Et comme beaucoup d'autres, c'est avec lui que j'ai commencé à faire mon éducation. Il me dit une fois, au plus fort de sa propagande impérialiste, « Dites à ces jeunes gens d'Irlande que cette grande chose doit continuer. On prétend que l'Irlande est incapable de se gouverner elle-même, mais c'est une absurdité. Elle en est aussi capable que n'importe quel pays d'Europe. » C'est seulement que nous ne pouvons pas le lui accorder. » Après quoi, il parla de son désir de fonder et de diriger un journal à Dublin. Il se fut fait l'organe de la propagande gaélique, de nos vieilles histoires, de notre littérature moderne, de tout ce qui n'exigeait pas une bribe de gouvernement. Il rêvait d'une tyrannie, mais c'était celle de Côme de Médicis. Un aviateur irlandais prévoit sa mort.
Je le sais que mon destin m'attend là-haut, quelque part dans les nuages. Je ne hais pas qui je combats. je n'aime pas qui je protège. Mon pays a pour nom Kiltartan Cross. Mes frères sont ces pauvres. Quelle issue probable leur ferait tort ou les rendrait heureux? Devoir ni loi ne m'obligerait. Pas plus la foule que l'État. L'appel d'une joie solitaire m'a projeté dans ce tumulte. J'ai tout pesé. Fais le bilan. L'avenir, un vain souffle. Le passé, rien de plus. Devant cette vie, cette mort.
La seconde venue. Tournant, tournant dans la gire toujours plus large. Le faucon ne peut plus entendre le fauconnier. Tout se disloque. Le centre ne peut tenir. L'anarchie se déchaîne sur le monde comme une mer noircie de sang. Partout, on noie les saints élans de l'innocence. Les meilleurs ne croient plus à rien. Les pires se gonflent de l'ardeur des passions mauvaises. Sûrement quelques révélations, c'est pour bientôt. Sûrement que la seconde venue, c'est pour bientôt. La seconde venue. À peine dit ces mots, une image immense du Spiritus Mundi trouble ma vue. Quelque part dans les sables du désert, une forme avec corps de lion et tête d'homme et l'œil vide et impitoyable comme un soleil se meut, acuisselante, tandis qu'autour tournoient les ombres d'une colère d'oiseau. La ténèbre, à nouveau. Mais je sais maintenant que 20 siècles d'un sommeil de pierre exaspéré par un bruit de berceau tournent au cauchemar. Et quelle bête brute, revenue l'heure, traîne la patte vers Bethléem pour naître enfin. L'Éda et le Cygne.
Le heurt d'un vent. De grandes ailes battent encore sur la fille chancelante, dont les cuisses sont pressées par les palmes noires, dont la nuque est captive du bec. Et sa poitrine, sous sa poitrine à lui, est sans recours. Comment ces vagues doigts terrifiés pourraient-ils, des cuisses faiblissant, repousser tant de gloire? Comment un corps, sous cette ruée blanche, ne sentirait-il pas battre l'étrange cœur? Un frisson dans les reins engendre là le mur brisé, la tour et la voûte qui brûle, et Agamemnon mort, elle emportée, elle écrasée par le sang brut de l'air, prit-elle au moins sa science avec sa force, avant qu'indifférent, le bec l'eût laissé choir?
Extrait du discours pour la réception du prix Nobel de littérature. La littérature moderne en Irlande, et de fait cette agitation de pensée qui préparait la voie à la guerre anglo-irlandaise, commença quand Parnell perdit le pouvoir en 1891. Une Irlande désenchantée et aigrie se détourna de la politique parlementaire. Nous, auteurs, pensions à tout ce qui était romantique et poétique, car le nationalisme auquel nous aspirions, semblable à celui auquel chaque génération a aspiré dans les moments de découragement, était romantique et poétique. Les funérailles de Parnell.
La foule sous la tombe du grand comique. Un paquet de nuées que le vent chasse dans un ciel de tempête. Là où c'est sans nuages, tout étincelle. Mais plus brillante encore, une étoile qui tombe. Quel frisson court dans le sang des bêtes? Qu'est-ce, ce sacrifice? Y a-t-il là quelqu'un pour se souvenir qu'une flèche crétoise avait percé une étoile? Le feuillage était foisonnant que brûla l'étoile. La foule, frénétique. À la fourche des branches, un bel enfant assis. Un arc sacré, une femme la flèche sur la corde. L'enfant est transpercé. À l'image de l'astre jeté bas, cette femme, qui figure la grande mère, lui arrache le cœur. Quelque grand artiste dessina l'arbre, l'enfant. C'est une monnaie de Sicile. Une époque est une autre, vue à l'envers. Quand des mains étrangères assassinèrent les patriotes, Emmett, Fitzgerald, Tone, nous fîmes comme si nous regardions une peinture. Qu'importait le sujet, passait la chose. Nos vies étaient indemnes, mais cette fois, c'est la rage du peuple, l'hystérica passio qui mena la curée. La faute est nôtre, et nous ne fûmes pas une image peinte quand nous avons dévoré son cœur. Allons, regardez-moi en accusateur, j'ai soif d'être accusé. Tout ce qui fut chanté de l'Irlande ou dit en Irlande, c'est un mensonge qui s'est nourri du délire des foules. Tout, sauf l'air qu'entendent les rats que l'on fait mourir, n'en laissait rien debout, sauf les riens qui furent, le propre de cette âme si exposée, et décide qui peut, si ce fut homme ou bête.
2 ans après la mort de Parnell, j'avais prophétisé dans l'introduction à mon anthologie de romanciers irlandais qu'un mouvement intellectuel naîtrait à la première accalmie politique. Et je voulais maintenant accomplir ma prophétie. Je ne définissais pas la chose ainsi car je préférais penser que l'émotion soudaine qui s'emparait de moi, la certitude soudaine que l'Irlande allait être comme de la cire molle dans les années à venir, relevait d'un instant de clairvoyance surnaturelle. Je proposais une nouvelle organisation, la Société littéraire irlandaise. La littérature irlandaise n'inspirait plus que mépris. Aucun homme cultivé n'achetait jamais un livre irlandais. Les jours dansants ne sont plus.
Viens. Que je te chante à l'oreille. Les jours dansants ne sont plus qui portaient soie et satin. Accroupis-toi sur la pierre. Enveloppe ce sale corps dans un haillon aussi sale.
Je porte le soleil dans ma coupe d'or. La lune en un sac d'argent.
Maudit si tu veux, je te chante tout le chant puisque peu importe si celui qui te donnait joie et les enfants qu'il te fit dorment quelque part comme Loire sous une dalle de marbre.
Je porte le soleil dans ma coupe d'or, la lune en un sac d'argent.
Aujourd'hui même, j'ai pensé, midi sonnant à l'horloge, comme n'a rien à prétendre qui s'appuie sur un bâton, mais qu'il peut chanter. Chanter jusqu'à tomber, que ce soit devant la jeune ou la vieille.
Je porte le soleil dans ma coupe d'or, la lune en un sac d'argent.
L'épitaphe de Swift.
Le navire de Swift s'éloigne dans le repos éternel. Nulle indignation forcenée ne l'y déchirera plus. Imite-le si tu l'oses. voyageur qu'a bâti le monde. Car Swift a servi la cause de l'humain qui est d'être libre.
Arthur Griffith, fondateur du mouvement du Sinn Féin, premier président de l'État libre d'Irlande et à cette époque anticlérical fougueux, se flatta d'avoir amené un tas de gens des quais et de leur avoir dit d'applaudir tout ce qui déplairait à l'Église. Je ne voulais pas qu'on fît de ma pièce Countess Kathleen une manifestation anticléricale, et je décidai, à voir le malaise général qui se répandit lorsqu'un méchant paysan au premier acte saccagea un reposoir catholique, que les remous étaient en partie de ma faute. En utilisant ce que je considérais comme des symboles traditionnels, j'avais oublié qu'en Irlande, ce ne sont pas des symboles, mais des réalités. Dublin en parla pendant des années, et au bout de 35 ans, je garde au nombre de mes souvenirs inoubliables le sentiment du désastre imminent que la comédienne Florence Farr mettait dans les mots « Mais voici maintenant qu'au-dessus de nos têtes ont ululé deux hiboux gris. » Mon ami Martin télégraphia « L'intelligence a passé de l'Angleterre à l'Irlande. »
Il apparut dans la vieille Irlande deux marchands inconnus dont personne n'avait ouï parler. Leurs cheveux étaient noirs et ferrés avec de l'or, et leurs robes d'une grande magnificence.
Ils paraissaient être des hommes de 50 ans.
À cette époque, l'Irlande était pauvre. Les indigents ne savaient à quelle sainte se vouer, et la misère devenait de plus en plus terrible.
Dans l'hôtellerie où descendirent les marchands fastueux, on chercha à pénétrer leur dessein, mais ce fut en vain.
Et pendant qu'ils demeurèrent dans l'hôtellerie, ils ne cessèrent de compter et de recompter des sacs de pièces d'or, dont la vive clarté s'apercevait à travers les vitres du logis.
« Gentlemen, leur dit l'hôtesse, d'où vient que vous êtes si opulents ? Et que, venu pour secourir la misère publique, vous ne fassiez pas de bonnes œuvres.
« Belle hôtesse, répondit l'un d'eux, nous n'avons pas voulu aller au-devant d'infortunes honorables, dans la crainte d'être trompés par des misères fictives. Que la douleur frappe à la porte, nous ouvrirons. »
Le lendemain, quand on sut qu'il existait deux opulents étrangers prêts à prodiguer l'or, la foule assiégea leur logis. Mais les figures des gens qui en sortaient étaient bien diverses. Les uns avaient la fierté dans le regard, les autres portaient la honte au front.
Countess Kathleen. Pâques 1916.
Je les ai rencontrés à la tombée du jour, qui venaient avec des visages éclatants de leurs comptoirs, de leurs bureaux, parmi les grises maisons du XVIIIe siècle. J'ai passé avec un salut de la tête ou des mots polis, dépourvus de sens, ou bien je me suis attardé un instant et j'ai dit des mots polis, dépourvus de sens, ou avant même d'avoir fini, j'ai pensé à quelque histoire plaisante ou à un bon mot, destiné à distraire une connaissance au club, au coin du feu, parce que j'étais sûr qu'eux et moi, nous jouions dans la même farce. Tout est changé, changé du tout au tout, une beauté terrible est née. Cette femme, ses jours se passaient dans un dévouement sans méfiance, ses nuits, ses argumentations, à en avoir la voix brisée. Quelle voix pourtant était plus douce que la sienne, dans la beauté de sa jeunesse, aux temps où elle chassait à court. Cet homme avait tenu une école et monté notre cheval ailé. Cet autre qui l'aidait, son ami, arrivait à la force de l'âge, Pour finir, il aurait sans doute conquis la gloire, tant sa nature paraissait sensible, si audacieuse et délicate sa pensée. Cet autre encore, toujours j'avais songé à lui, comme à un rustre ivrogne et prétentieux. Il avait causé un tort très amer à des êtres proches de mon cœur. Pourtant, je le compterai au nombre de ceux que je chante. Lui aussi a cédé son rôle dans la comédie dérisoire. Lui aussi a été changé à son tour, transformé du tout au tout. Une beauté terrible est née. Les cœurs, qui n'ont qu'un seul dessein, hiver comme été, voici qu'un sortilège semble les avoir changés en une pierre qui trouble le courant de la vie. Le cheval qui vient sur la route, le cavalier, les oiseaux qui errent dans le mouvant désordre des nuages changent de minute en minute. L'ombre d'un nuage sur le courant de minute en minute change. Le sabot d'un cheval dérape sur le bord de l'eau et le cheval y tombe. Les poules d'eau aux longues pattes plongent. Les poules d'eau appellent les coqs des marais. Tous vivent dans l'instant. Mais la pierre est au milieu de tous. Un sacrifice trop long peut changer le cœur en pierre. Mais cela sera-t-il assez? En finir est le rôle du ciel, et notre rôle est de murmurer les noms l'un après l'autre, comme une mère le nom de son enfant lorsqu'enfin le sommeil s'est appesanti sur ses membres fatigués par la course. Qu'est-ce d'autre que la nuit qui tombe? Non, non, non pas la nuit, la mort. Mais était-ce après tout une mort inutile? L'Angleterre, en effet, pourrait tenir parole, malgré tout ce qui a été dit et fait. Nous le connaissons, leur rêve, assez pour savoir qu'ils ont rêvé, qu'ils sont morts. Mais si le mirage d'un excessif amour les ayant égarés était la cause de leur mort, en vérité, je le résume à un poème, MacDonagh, et McBride, et Connolly, et Pierce, maintenant et à tout jamais, partout où l'on porte le verre, sont changés, changés du tout au tout, une beauté terrible est née.
25 septembre 1916.
Charbonneux, et mes yeux de plus de lumière, et mes lèvres plus écarlates, demandant à tous les miroirs si tout est comme je veux. Nulle vanité, je recherche le visage qui fut le mien avant qu'il n'y ait le monde. Pourquoi me dire cruel? Pourquoi se croire trahi? Je le veux aimant ce qui fut avant qu'il n'y ait le monde. Avant qu'il n'y ait le monde. Et qu'importe si je regarde un homme tout comme si c'était mon amour, quand pourtant mon sang est demeuré froid.
Thank you.
je le veux aimant ce qui fut avant, avant qu'il n'y ait le monde, avant qu'il n'y ait le monde.
Le réconfort de Cuculain.
Un homme qui avait si blessures mortelles, un homme illustre et violent, avançait à grands pas parmi les morts. Des yeux le regardèrent entre les branches, puis disparurent, puis des formes dans des linceuls qui se serraient en marmonnant vinrent à leur tour et disparurent. Il s'appuya contre un arbre, comme pour méditer sur les blessures et sur le sang. Un linceul qui semblait avoir de l'autorité parmi ces êtres qui rappelaient des oiseaux s'approcha et laissa tomber un baluchon de toile. Puis les linceuls, par deux, par trois, s'approchèrent timidement, car l'homme était maintenant calme. Alors, celui qui avait apporté la toile parla ainsi. Ta vie peut s'adoucir beaucoup si tu consens à obéir à notre ancienne règle et confectionner un linceul. Si nous tremblons d'effroi devant le cliquetis de ses armes, c'est par un sentiment qu'il est dans notre nature d'éprouver. Nous enfilerons le chat des aiguilles. Les tâches qui sont les nôtres, nous devons les accomplir tous ensemble. Ils le firent, et l'homme prit alors le drap le plus près de lui et se mit à coudre. À présent, notre devoir est de chanter, et chanter de notre mieux. Mais il faut d'abord que tu saches quel est notre caractère. Tous des pleutres déclarés, mis à mort par les gens de notre propre camp ou chassés de chez nous, livrés à mort dans la frayeur. Et ils chantèrent, mais l'air ni les paroles n'étaient humains. Bien que tout fût accompli en commun, comme ils l'avaient dit, leurs gorges s'étaient transformées et c'étaient des gosiers d'oiseaux.
La traversée vers Byzance.
Ce pays-là n'est pas pour les vieillards. Les garçons et les filles enlacés, les oiseaux dans les arbres, ces générations de la mort, tout à leur chant, les saumons bondissants, les mers combles de maquereaux, tout ce qui marche, nage ou vole au long de l'été célèbre tout ce qui est engendré, naît et meurt. Ravis par cette musique sensuelle, tous négligent les monuments de l'intellect qui ne vieillit pas.
Un homme d'âge n'est qu'une misérable chose, un manteau loqueteux sur un bâton, à moins que l'âme ne batte des mains et ne chante. Et ne chante plus fort à chaque nouvelle déchirure qui troue son habit mortel. Mais il n'est qu'une seule école pour ce chant. C'est l'étude des monuments de sa propre magnificence. Et c'est pourquoi j'ai traversé les mers pour m'en venir jusqu'à la cité sainte de Byzance.
Ô vous, sages dressés dans les saintes flammes de Dieu, comme l'or, comme dans l'or d'une mosaïque sur un mur, sortez des flammes saintes, venez dans la gyre qui tournoie, et soyez les maîtres de chant de mon âme. Réduisez en cendres mon cœur, malade de désir, ligoté à un animal qui se meurt. Il ignore ce qu'il est. Et recueillez-moi, dans l'artifice de l'éternité.
Une fois hors de la nature, je n'emprunterai plus ma forme corporelle à nulle chose naturelle, mais à ces formes que les orfèvres de Grèce façonnent d'or battu ou couvrent de feuilles d'or pour tenir en éveil un empereur somnolent, ou qu'ils posent sur un rameau d'or pour qu'elle chante aux seigneurs et aux dames de Byzance ce qui fut, ce qui est, ce qui est à venir.
Il est temps de faire mon testament. Je choisis ceux qui sont debout, qui remontent les torrents jusqu'au point où la source jaillit, qui dans le petit jour jettent leurs mouches près du rocher ruisselant. Je le déclare, voilà les héritiers de ma fierté, la fierté des gens libres, sans lien avec état ou cause, ni d'esclaves objets de crachats, ni de tyrans qui crachent, de la race des Bach et des Grattan, de ces donneurs libres de refuser, la fierté du matin, où le jour libéré se précipite, la fierté de la corne fabuleuse, celle de la soudaine ondée quand les torrents sont secs, celle encore de l'heure où le cygne doit fixer son regard sur la lumière qui s'éteint, partir pour la dernière étape sur les eaux miroitantes et chanter là son dernier chant.
Pied de Ben Bulben.
Prêtez serment par les paroles que proférèrent les sages des bords du lac Mariut et que connaissait la sorcière de l'Atlas, elle qui fit chanter les coqs en les prononçant.
Prêtez serment par ces cavaliers, par ces femmes dont la complexion et la forme prouvent l'essence surhumaine, par cette pâle assemblée au long visage. La plénitude de leur passion, leur value, cet air qu'ils ont dans l'immortalité. À présent, ils chevauchent dans l'aube d'hiver, où Ben Bulben plante son décor. Et voici en substance leur message.
Vous qui avez entendu la prière de Mitchell, donne la guerre à notre temps, Seigneur. Vous savez que lorsque tout a été dit et qu'un homme lutte comme un forcené, ses yeux longtemps aveugles se dessillent. Son esprit incomplet trouve alors ce qui lui manque et il se tient là un moment, serein, et rit tout haut le cœur en paix. Même le plus sage des hommes doit se raidir avec une sorte de violence, avant de pouvoir accomplir son destin, connaître sa tâche ou choisir sa compagne.
Poète d'Irlande, apprenez votre emploi. Chantez tout ce qui est bien fait. Méprisez cette engeance qui se répand maintenant, ces êtres sans forme des pieds à la tête, le cœur et la tête oublieux, rejetons sans noblesse, d'union sans noblesse. Chantez la paysannerie. Et puis, ces gentilshommes des campagnes, rudes cavaliers, la sainteté des moines, et en dernier lieu, chantez les rires épais des buveurs de bière brune. Chantez les gais seigneurs et dames qui retournèrent à la glaise tout au long de 7 siècles d'héroïsme. Tournez votre esprit vers d'autres jours pour que nous demeurions à l'avenir l'indomptable cœur de l'Irlande.
Au pied de Ben Bulben, à la tête nue, dans le cimetière de Drumcliff, Yeats s'est couché. Un ancêtre y fut recteur il y a bien des années. L'église est proche. Sur la route, une ancienne croix. Nul marbre, nul mot convenu. On a taillé, tout près d'ici, un bloc de calcaire. Et selon son ordre, on a gravé dessus ces mots.
Regarde sans t'attendrir, la vie, la mort, cavalier, poursuis ta route.
Poursuis ta route.
Yeats, l'Irlande libre, terre celtique. Choix des poèmes et des extraits, Maïlys Besri. Conseillère littéraire, Céline Geoffroy.
Avec Gabriel Dufay, Marion Malenfant, Olivier Martineau, Tatiana Spivakova et Makita Samba. Et les voix de Owen Carrick, James Riordan et Armel Lecoeur.
Accompagnement musical, Frédéric Fresson. Les poèmes et extraits des textes de Yeats sont tirés de Le frémissement du voile et Dramatis Personae, traduit par Pierre Léris aux éditions Mercure de France. Le vent parmi les roseaux, traduit par André-Pierre de Mandiargues chez Fata Morgana. 45 poèmes, suivis de La résurrection, traduit par Yves Bonnefoy aux éditions NRF Poésie Gallimard. Choix de poèmes, traduit par René Fréchet aux éditions Aubier-Montaigne. Discours du Nobel, traduit par Thierry Gilibeuf à la Part commune. Comtesse Kathleen, traduit par Michel Borel, chez L'Arbre d'Or. Michael Robartès et la danseuse, traduit par Jean-Yves Masson aux éditions Verdier. Équipe technique, Marie le peintre et Pierre Lemaire. Assistante à la réalisation, Aurélie Miermont. Réalisation, Cédric Aussire.
I rise in the dawn and I kneel and low to the seed of the fire flicker and glow. And then I must scrub and bake and sweep till stars are beginning to blink and peep. But the young lie long and dream in their bed of the matching of ribbons for bosom and head. Their day goes over in idleness. They sigh if the wind but lift up a tress. While I must work because I am old, and the seed of the fire gets feeble and cold.